Bonjour à tous pour ce premier épisode du podcast qui n'a pas de nom, donc c'est formidable. Autour de la table aujourd'hui, Fumbi, a.k.a. Benjamin Tancé, ou Benjamin Tancé, a.k.a. Fumbi, Olivier Courtois, a.k.a. Olivier Courtois.
Yes, non, c'est au Courtois, mec.
Ah, c'est au Courtois. B.O. Courtois, pardon.
Ouais, exactement. B.O. Courtois. Salut à tous.
Dren, a.k.a. Pierre Goubin, en chantier.
Lui-même.
Et Romain de Peigne, Mouge.
Bonsoir.
Quelle voix sensuelle. Et Thomas Goubin, okay, Thomas Goubin, Choubi pour les intimes. Donc voilà pour ce premier épisode du podcast. Je vous propose qu'on. Alors, c'est une première. L'objectif étant de discuter entre amateurs de séries télévisuelles et notamment autour d'une série qui marque un petit peu l'actualité parce que tout le monde en parle, on l'entend, ça parle sur les. There is a lot of chatter. À propos de Queen's Gambit, le jeu de la dame en français, dans la langue de Molière. Donc très brièvement pour commencer et resituer un petit peu situer surtout quelle est cette série pour ceux qui auraient dormi dans une grotte ou n'auraient pas allumé Netflix pour voir les highlights récents. Alors la série très simplement c'est une série dite one shot, donc c'est une série d'une seule saison en fait de 7 épisodes tirée d'un livre qui s'appelle aussi The Queen's Gambit, un livre éponyme qui se passe dans le tumulte de la guerre froide des années 50 où l'on suit l'histoire d'une jeune fille qui au cours de ses tribulations va devenir la meilleure joueuse d'échecs au monde. Les 7 épisodes, qui auraient d'ailleurs dû en être que 6, mais le réalisateur a dit « Chess takes time », donc ils ont décidé d'en faire un 7e, et grand Dieu, quel bel épisode d'ailleurs, nous y reviendrons. Ça met en musique l'évolution de Beth Harmon, que l'on découvre à l'enfance, dans un orphelinat, initié aux échecs par le concierge de l'établissement, qui lutte déjà avec des démons intérieurs assez puissants, probablement liés à sa grande intelligence et son histoire tragique avec la perte de sa maman. Elle va vite trouver un confort relatif dans les narcotiques, prescrits à l'époque comme utiles pour calmer les enfants. Je suggère aux parents de ne pas utiliser cette méthode, basée sur le Librium, un benzodiazépine permettant de réduire l'anxiété, que j'ai d'ailleurs trouvé à 10 euros dans mes spams, si vous êtes intéressé. Et donc, du coup, les séances clandestines d'échecs avec ce monsieur Scheibel, qui vont vite se révéler son potentiel inouï. La série est très centrée sur son personnage principal, que l'on verra devenir femme, joueuse d'échecs d'exception, non sans sacrifice, qui rappelle d'ailleurs en fait, le titre de la série, le Queen's Gambit, étant un peu le sacrifice de la reine comme dans les échecs, et non le yacht dans cette magnifique série que nous avons tous regardé, qui est notre série préférée, Arrow. On voit Olivier qui a envie de dire des trucs, mais je ne sais pas si j'ai eu sa parole sur Arrow. Mais... et donc, du coup, juste avant de laisser la parole à chacun, parce que l'objectif, c'est que chacun exprime, mais pas Olivier sur Arrow, chacun exprime finalement ce qu'il pense de cette série. Pour situer l'impact de cette série et Netflix de manière globale, au-delà du fait que tout le monde en parle, comme on l'évoquait précédemment, les ventes de jeux d'échecs ont doublé dans les magasins spécialisés et les recherches ont augmenté de plus de 272% sur Google. Google, monsieur. Voilà, donc je vous propose maintenant d'exprimer les opinions de chacun autour de la table. Et Olivier a envie de dire un truc juste avant, donc Olivier, je te
Ouais, sais. Carrément, je voulais prendre la parole. Merci pour cette première entrée en matière et la description. C'est la première fois qu'on fait l'exercice, c'est top. Il y a un truc qu'on n'a pas dit, mais si vous êtes arrivé jusque-là, je pense que vous l'avez compris, il va y avoir des spoils. Et du coup, dans la description, il y a déjà des spoils. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
Arrêtez d'écouter. Ah, tu peux mettre, nous, j'en post-prod des bips, s'il te plaît, sur les spoils.
Ah, je les mettrai, ouais.
Très bien. Très bonne remarque. Et donc maintenant, je vous propose de rentrer un petit peu dans les détails, dans les opinions de chacun. Et nous allons commencer avec l'opinion, la synthèse de Dren. À toi.
Ok, donc moi j'ai trié mon opinion par point clé plutôt que par point positif, négatif. Déjà parce que c'est ma série préférée de l'année et que je pense que je ne serais pas capable de trouver des points négatifs. Alors, ce qui m'a tout d'abord marqué, c'était principalement la structure du récit que j'ai trouvé très très bien exécutée. Et on pourra peut-être y revenir en détail plus tard, ce sera plus sympa. Mais en tout cas, je pense que c'est un exemple pour pas mal de séries. Les personnages, notamment leur évolution et l'impact du personnage principal de Beth, qui est omniprésent, mais qui arrive à beaucoup beaucoup interagir sur l'environnement en général. Et enfin, les clichés. J'aime bien examiner ça quand je regarde des séries. Et je trouve qu'ils ont esquivé beaucoup de clichés sur lesquels on les attendait. Et ça, c'était aussi un point très, très fort pour moi sur lequel je pense qu'on pourra bien parler. Donc voilà, moi, c'est à peu près tout.
Excellent, merci, merci beaucoup, Dren. Maintenant, Fumbi, Benjamin, t'en sais ton avis sur cette sur Queen's Gambit.
Tout à fait, votre humble serviteur. Donc, un peu comme notre ami Dren, moi j'ai beaucoup aimé la structure du récit, effectivement. Pour ce qui est des clichés, justement, j'aimerais bien rebondir un peu plus tard là-dessus, puisque je trouve qu'en voulant éviter certains clichés, ils ont pris une tangente peut-être un peu trop nette, et ça a créé un peu de scénarium, un peu trop de facilité, en fait. Par contre, ce que j'ai adoré, c'est le woman power extrêmement bien exécuté de la série, où justement, on est sur quelque chose de... Ce que moi j'appellerais, ça peut mener à débat sur le terme, mais en tout cas, du féminisme intelligent, dans le cadre d'une série. Et j'aimerais beaucoup en débattre tout à l'heure. La parole est à l'accusation.
Wow. Merci, merci cher Fumbi. Romain, ton avis ?
C'est beau. Mon avis, un peu comme tout le monde, je pense que tout le monde a apprécié la série. Dans mes points positifs, je trouve que c'était dur de faire une série sur des échecs qui est un jeu hyper ennuyeux, hyper chiant, on va pas se mentir. Et ça l'a rendu plutôt intéressant. On a même un match de l'épisode 6 qui est complètement fou, vraiment tourné d'une façon formidable. Et en point plutôt négatif, j'en ai quelques-uns, mais peut-être l'évolution morale de Bess, du coup, qui au final s'épanouit en écrasant des gens et sans aucune... sans compassion, quoi. Et peut-être ça m'a dérangé, on en reparlera. Okay. Je te laisse mon host.
Ultra intéressant. Olivier, à ton tour.
Ouais, alors moi je suis un peu partagé. Il y a pas mal de choses que j'ai aimées, il y a des trucs que j'ai moins aimés. Ce que vient de dire Romain, je suis complètement d'accord. Je pense qu'il y a une rédemption on pourra en parler, qui est un peu facile du personnage principal. On nous l'a fait aimer alors que franchement, elle est antipathique pendant une bonne partie du truc. Ce qui est cool aussi, c'est pareil, ça a déjà été cité, mais c'est le paysage, enfin le personnage féminin fort qui est un cliché qu'on voit pas tellement, et en tout cas dans la manière de l'être, c'est assez différent. Et après, je me suis vraiment demandé, qu'est-ce qui faisait que cette série avait fasciné autant de gens, parce que déjà nous, on se réunit pour en parler, etc. Et il y a quand même un truc il y aura pas mal de clichés, on pourra creuser autour du mythe du héros, quoi. Du génie qui est doué et qui est naturellement doué, parce que plusieurs fois, on va nous faire comprendre que même si elle se met à bûcher, elle joue très intuitivement, pas du tout comme la plupart des autres joueurs, quoi. Et donc, il y a vraiment ce côté, c'est une naturelle et c'est vraiment le héros absolu, le génie absolu. Bref, pas mal de sujets à creuser. Donc voilà, il y a des trucs sur lesquels je suis partagé.
Ok, excellent. Bah, pas mal d'avis finalement divergents, c'est assez intéressant. Je vais juste conclure parce que moi j'ai décrit, je vais donner mon avis parce que quand même j'ai un avis, je ne suis pas que quelqu'un de neutre, j'ai des émotions, j'ai un petit cœur. Moi de mon côté d'abord c'est un gros coup de cœur et je me suis vraiment interrogé sur les échecs parce que moi c'est mon premier jeu online, j'ai fait des tournois, j'adore ça, j'étais un gros geek des échecs, alors je rentrerai dans certaines anecdotes personnelles récentes sur les échecs. Mais, donc c'était vraiment moi un coup de cœur sur ce sujet-là. Ensuite évidemment le personnage mais surtout l'actrice. Alors, là aussi, ce sera sujet à débat, mais pour moi, l'actrice fait la série, ou en tout cas, les 20% restants qui font que c'est une série qui est excellente. Et d'ailleurs, beaucoup de choses sont tournées autour d'elle, sur les plans, sur les gros plans, etc. C'est assez formidable. Donc, j'ai vraiment aimé. Et quelque part, c'est également, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est quelqu'un de weird, d'assez antipathique, mais j'ai aimé ce côté. C'est pas un personnage parfait, c'est un personnage cabossé. Et ce personnage cabossé, on arrive à en faire un héros vraiment assez fantastique. À la fin, on est avec elle, on la soutient, on veut qu'elle gagne. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà pour mon avis. Et ouais, Romain, tu
as... Du coup, dans ce que j'entends que tu es un geek des échecs à l'époque, je voulais juste savoir, est-ce que toi, du coup, aussi, tu te baladais avec un chapeau de cow-boy, une cape de Matrix,
ouais,
et une pantoufle
et un couteau à la normale après. Et basé sur moi. Et un couteau.
Ah, c'était toi. D'accord, non, mais
c'est toi, Crocodile Dandy. Okay.
C'était moi. Ouais, voilà. J'ai joué dans plein de films aussi. Oui, mais le chapeau,
ça m'étonne pas.
Le chapeau est important. j'ai entre nous, du coup, j'ai jamais rencontré de joueur d'échecs si haut en couleur. Mais bon, j'ai pas été grand maître, donc peut-être que c'est les grands maîtres. On ne sait pas.
Mais du coup, t'as été un garçon qui faisait des échecs. Est-ce que toi aussi, pour séduire une fille, tu t'es fait refaire la dentition? Parce que ça, c'est vraiment un move qui était vraiment, j'ai apprécié. Je me suis dit, c'est rare, quoi, tu vois, d'être si dédié et persévérant.
C'est la persévérance, tu l'as dit. C'est une qualité du genre d'échec, non, mais peut-être.
Il s'est fait refaire le nez, par contre, si je ne dis pas de bêtises. Hein.
Heureusement, c'est un podcast, ce n'est pas une animation vidéo. Vous avez beaucoup de chance, chers auditeurs. Ok, bah très bien. Voilà pour le premier, l'ouverture, comment dire, aux échecs. C'est l'ouverture de ce jeu magnifique que nous allons jouer dans les minutes qui viennent. Maintenant, rentrons un petit peu dans les sujets. Vous l'avez dit, il y a des forces différentes qui vont nous opposer. Et je propose de commencer par les personnages, qui est vraiment le point central peut-être de la série. Et je voulais qu'on en discute un petit peu plus. Comme on l'a dit, Beth est présente. Alors, Dren donnait l'estimation de 90% hors caméra, enfin hors micro. Mais peut-être que c'est 80, en tout cas, elle est prédominante. Moi, de mon côté, j'ai l'impression du coup que ça écrase, peut-être, alors tu disais écraser les adversaires, mais ça écrase aussi un petit peu les personnages secondaires. Qu'est-ce que vous en pensez, moi ? Typiquement, Benny, j'ai eu vachement de mal avec lui. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans ce perso, malgré son magnifique chapeau. Mais du coup, quel est votre avis sur les personnages, et notamment les personnages secondaires ? Vas-y, Dren.
Alors moi, du coup, je pense que c'est déjà vraiment un choix volontaire. C'est-à-dire que c'est clairement le récit d'une personne, et c'est volontaire de la mettre au centre de la scène et d'avoir les autres personnages comme des appuis sur lesquels elle se repose, et parfois avec contradiction, parce qu'il y a des moments de entremets moral avec sa mère qui lui dit dans la vie tu pourras te reposer sur toi-même, etc., des trucs comme ça, pour au final les contredire instantanément. Et justement, cette sensation d'avoir les personnages écrasés, je suis d'accord qu'elle est là, mais je pense pas que ce soit une mauvaise chose, parce que c'est vraiment pour vous dire que c'est cette histoire qu'on raconte. Et comment des personnages avec qui, au fin de compte, elle n'est pas en contact énormément, ont réussi à beaucoup la changer.
Ok. Olivier, si tu veux compléter ?
Ouais, vas-y.
Ouais, mais du coup, moi, je trouve que le corollaire de ça, et c'est là où ça me dérange, c'est qu'on rentre dans un des clichés. Et le cliché que j'ai évoqué rapidement dans mon avis, qui est ce héros naturel qui a besoin de personne, en gros. C'est-à-dire qu'on pense à des Thomas Edison, à des Musk plus récemment, tu vois, la figure du génie absolu qui fait que tu peux être la personne la plus antipathique, en vrai. De toute façon, on va te le pardonner parce que tu es très au-dessus, etc., etc. Et donc là, on le voit, c'est vrai dans la personnalité du personnage, mais c'est vrai aussi dans la narration. C'est-à-dire le temps qui est donné à l'évolution et le temps d'apparition à l'écran. En fait, tout concorde. Et donc oui, c'est son histoire qu'on veut nous raconter. Mais du coup, on va à fond dans ce cliché du génie absolu, quoi.
Ok. Fumbi, peut-être pour ajouter quelque chose, Dren, je te laisserai la parole.
Pour rebondir, ouais, je suis assez d'accord avec ce que dit Olivier, mais néanmoins, c'est... Enfin, je pense pas qu'elle soit seulement... On n'est pas seulement sur un trip, un égo trip, en fait, pur de la part du personnage principal, on n'est pas sur quelque chose genre « je suis invincible, de toute façon, aimez-moi, même si je suis affreuse avec tout le monde, même si je ne laisse transparaître aucune émotion. » Parce que elle est pas non plus si désagréable que ça, en fait. Elle a beaucoup de côtés humains qui ressortent, notamment avec les deux amis qu'elle se fait très tôt dans la série, qui au début ne l'aimaient pas, les deux qui ouvrent le premier open. Eh bien, on la voit agir vraiment en tant qu'humaine, en tant que personne. Sauf que c'est quelqu'un qui nous est présenté comme étant assez froide, assez réservé, avec l'extérieur, des gens qui l'entourent, qui ne sont pas proches d'elle. Les gens qui rentrent dans son intimité, on voit beaucoup plus de facettes humaines, beaucoup plus d'interactions sociales, d'émotions, en fait, qui se passent. Et je trouve ça vraiment intéressant, justement, de se dire qu'il y a deux niveaux, en fait, de lecture là-dessus.
Alors, je me permets le truc que tu vois, c'est que... Donc, par exemple, si on parle de ces... Tu parles des deux frères, c'est ça
qu'on,
les,
qu'on
jumeaux,
découvre,
non les jumeaux, les oui. jumeaux qu'on découvre assez tôt. Mmh. Ouais, mais en fait, ils parlent que d'échecs. Ce qu'on voit, et c'est un autre des personnages dans, je pense, donc puisqu'on parle des personnages, un autre des personnages, c'est les échecs et l'obsession qu'elle a pour les échecs. Et en fait, quand tu regardes son personnage, Bef, elle a un comportement obsessionnel dès le départ. C'est-à-dire, que ce soit à travers les premières drogues qu'elle va se mettre à utiliser sous l'influence de l'institution dans laquelle elle est, ou ensuite avec les échecs, elle a vraiment un comportement très obsessif. Et donc, en fait, toutes les interactions pendant la première partie, au moins, de la narration qu'elle a avec ses proches, c'est souvent, ça tourne qu'autour des échecs. Et elle ne fait pas de place aux gens. Elle fait très peu de place à... Il n'y a pas une scène où on la voit parler d'autre chose avec ces gens-là que des échecs, en fait. Elle
est tout
le temps habitée par ça. Et si les gens ne viennent pas, d'une façon ou d'une autre, être un outil pour ça, ben moi, je trouve qu'elle... C'est pour ça que je parlais d'un personnage antipathique, quoi. C'est que nous, on sait que c'est le héros. Et en plus, dans la narration, je trouve qu'ils ont vraiment ils essaient de la réhabiliter très vite. C'était un des trucs que je disais que j'aimais pas. Parce qu'en fait, on commence toujours par un flashback, et ce flashback sur son enfance, qui nous aide à apporter un éclairage humain sur qui elle est. C'est aussi une super façon de nous donner le petit shoot d'empathie dont on a besoin. Parce qu'en fait, le même personnage, ce serait un personnage secondaire, ce serait pas Beth, et on lui ferait pas la même place dans la narration, on se dirait, mais c'est qui cette personne qui est complètement obsédée et qui est pas du tout sympa, quoi.
Alors, je vais juste intervenir. Je suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu disais sur le côté tout ce qu'elle parle avec son entourage, c'est les échecs. Parce qu'au contraire, je trouve qu'on remarque une tendance, c'est que elle, tout ce qui tourne autour des échecs, à part les jouets, ça la fait chier, en fait. À part au début où elle apprend, etc., elle est vachement dedans. Tout le passage où on voit, je me rappelle plus de son nom, mais le champion qui s'est fait refaire les dents. Tout le passage où il est chez elle et qu'il lui parle d'échecs, elle s'en fout. Elle, c'est pas ça qu'elle veut faire, en fait. Elle a d'autres idées en tête, elle essaie de parler d'autres choses. C'est lui qui revient sur ses games, c'est lui qui revient sur les trucs. Et tu sens un malaise, d'ailleurs. Alors, après, c'est peut-être pas l'unique raison du malaise, on est d'accord. Mais je pense pas qu'elle soit aussi auto-centrée sur la part des... Enfin, oui, quand même, il y a une part obsessionnelle, mais c'est pas non plus... Ça ne résume pas son personnage pour moi. Et l'autre truc où je suis pas du tout d'accord, c'est l'idée du cliché du héros. Ça s'apparentait vachement à la description que tu fais d'un Marissou ou d'une Marissou. Qui n'a aucun obstacle, qui est un génie inné, etc. Et alors, il y a une notion de génie inné qui est très présente et qui est cliché, mais qui au final arrive à jouer un peu à contre-courant et bien le faire parce que, mine de rien, elle est quand même sur tout son chemin, il y a des obstacles sans arrêt et qu'elle a beaucoup de mal à passer, et certains qu'elle n'arrive pas à passer toute seule. Et ça, c'est l'opposé exact d'une Marissou. Elle serait incapable d'avancer dans la série si elle se reposait uniquement sur son génie. Et c'est ça qui est important, je trouve aussi, c'est la façon dont elle a pu passer outre certains problèmes, par exemple la drogue, grâce aux autres au final, et pas uniquement en se reposant sur elle-même. Et pour moi, ça contredit beaucoup ce cliché-là.
C'est quand même globalement à la toute fin qu'on voit ça. Moi, ce que je dis, c'est que dans le parcours, il nous la présente comme cette naturelle. Mais je te rejoins, je dis pas qu'elle n'a pas du tout d'entourage, je dis pas qu'elle va pas apprendre, puisque en fait l'arc de développement de ce personnage, c'est justement qu'elle va apprendre à accepter sa vulnérabilité, à s'ouvrir aux autres et un petit peu accepter l'aide des autres. Donc clairement il y a une progression, mais quand même la série commence quand elle a 5 ans, je pense, et se termine quand elle en a 25 probablement. Sur une vingtaine d'années, il y a quand même la très grande majorité de cette période-là où elle est cette personne qui est naturelle, intuitive dans sa façon de jouer, etc., ouais, etc. Donc c'est pour ça que je dis que le mythe du héros est très très présent, même si justement ils viennent le détricoter un petit peu à la fin, parce que on voit qu'il y a une forme de changement.
Juste par rapport à cette évolution de personnage, je trouve que justement la personne avec laquelle elle n'arrive pas à partager cette passion malgré un intérêt, c'est la mère, comme je le disais tout à l'heure, ce qui finalement est un personnage qui va la rendre un petit peu plus sympathique, je dirais, à contrario de ce côté. Est-ce que ce n'est pas finalement sa mère comme personnage intermédiaire, parce que finalement, malheureusement, elle a une vie qui s'arrête, mais qui va amener ce côté autre que les échecs, qui va lui apprendre une certaine sensibilité, qui va la faire réfléchir aussi par rapport à son statut, où on sait que sa mère n'a jamais pu vraiment s'exprimer, liée à sa place, liée à son couple. On le voit avec le piano, qui est assez central aussi dans ce personnage-là. Et c'est pas elle qui, finalement, va lui apporter cette dose de sensibilité qui va la changer, la faire évoluer en tant que personnage là-dessus. Vas-y, Romain.
Du coup, la mère adoptive, on est d'accord.
Oui.
Ce qui va les lier, au final, c'est les échecs. En fait, on en revient toujours au même. Sans les échecs, elles ne seraient pas liées. D'ailleurs, elles s'entendent très peu avant qu'elles commencent à faire des tournois. Les deux s'entendent très peu ou très mal. En fait, c'est les tournois et les échecs qui vont les lier. Qui vont faire un peu oublier l'alcool à la mère, un tout petit peu. Et c'est ce qui va... Ouais, un tout petit peu. Vraiment, la seule passion de la mère avant les échecs, je pense que c'est l'alcool, quoi.
Et le piano.
Donc, le piano et sans les échecs, je ne pense qu'il n'y a pas de liaison entre les deux. Enfin, il n'y a pas quelque chose qui va faire que ça colle, en fait.
Justement, je pense que je ne suis pas tout à fait d'accord parce que les échecs, c'est plus le médium. Elle ne s'intéresse jamais vraiment aux échecs. Elle écoute ses parties, mais elle écoute d'une oreille, c'est par politesse. Ce qui les lie vraiment sur ce moment, c'est l'argent, hein. C'est parce qu'ils n'ont plus de thunes et qu'elles se rendent compte, tiens, attends, t'es deux aux échecs, tu fais des thunes quand tu fais des échecs. Mais allons bon,
oui,
l'école, ça sert à rien.
Les échecs. Non, mais
mais au final, ce n'est pas vraiment la raison. C'est-à-dire qu'ils ne se lient pas d'amitié entre guillemets, sur le sujet des échecs, mais sur ce que ça leur apporte individuellement. Elle veut faire des échecs et elle veut pouvoir vivre. Et d'ailleurs, ça risquait de s'enclencher sur un cliché qui a été esquivé, je coupe juste sur un autre point du coup, qui était la mère vénale, qu'elle est en mode « ouais, je vais t'utiliser parce que t'es doué sur ton truc et on va se faire des thunes ». Et au contraire, elle s'est réchauffée, je trouve, au fur et à mesure du récit, et a réchauffé Beth, etc., comme disait Tom. Justement, grâce à ce médium, au début, tu te dis « ouais, bon, ils vont exploiter les thunes », et en fin de compte, non, il y a une côté, ils sont contents de se faire de l'argent, mais il y a une vraie relation qui s'est créée et qui était très, très intéressante.
Ouais. Vas-y, Benjamin, peut-être.
C'était très rapidement pour bondir. Je n'ai jamais trouvé que la mère faisait, même si on comprend très bien que sa première intention, c'est de faire de l'argent avec les échecs, et que ça l'intéresse principalement à cause de ça au début, j'ai jamais trouvé qu'elle soit vénale, en fait, parce que c'est vite désamorcé, notamment quand t'as fait son premier voyage à l'international, où elle lui demande timidement si elle peut prendre 10% de ses gains, tu vois. Ce qui est quand même extrêmement peu, et sachant qu'elle a déjà avancé beaucoup d'argent, et du coup, désamorce extrêmement vite ce cliché, justement, de la mère adoptive vénale qui serait là pour exploiter sa fille, en fait.
Mais ça, c'est des situations qui peuvent changer, ça aurait très bien pu, désolé, Olivier, mais ça aurait très bien pu repartir plus loin après. Je te laisse répondre.
Je suis complètement d'accord sur ce point. Je pense que, du coup, on parle de, finalement, là, on est en train de parler de Bess, qui est le personnage principal et qui est cette femme hyper forte. Et donc, c'est assez intéressant, je pense, de voir ça. Parce que c'est pas quelque chose qu'on nous donne à voir si souvent, d'avoir un personnage fort, féminin, avec ce type d'arc. Et ce qui est vachement intéressant, c'est quand tu fais le parallèle avec justement la mère adoptive. La mère adoptive, et en fait toutes les femmes dans la vie de Bess, pendant une bonne partie de la série, sont des personnes qui justement se font face, parce qu'elles n'ont pas ce talent-là, parce qu'elles n'ont pas ce génie-là, elles font face à tous les obstacles qu'une femme... rencontre, et encore plus dans cette période-là des années 50. Donc, tu es globalement à la maison, tu t'ennuies, tu n'as pas vraiment accès à l'extérieur. On voit par exemple la mère adoptive, là, pendant qu'elle est encore mariée et que le mari vit encore dans la maison, on sent qu'il y a une tension permanente, on sent qu'ils s'entendent pas du tout, on sent qu'elle est extrêmement frustrée. Et cette mère-là, ce qui en fait, elle est pétrifiée, elle est incapable de jouer en public. Et ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'au-delà du côté vénal ou quoi que ce soit, c'est qu'en fait, je pense que ce qui se joue, c'est pas vénal. C'est vrai que ce qu'on nous donne à voir au départ, c'est ce côté argent, parce qu'elles sont toutes les deux à se débrouiller, et en fait, c'est quasiment presque plus de l'entraide, parce qu'elles font presque un... Ouais, non, en fait, elles passent un accord toutes les deux pour se dire, bah, moi, je veux bien que tu restes, tu dis pas que mon mari est parti, etc. Et en fait, elles se mettent d'accord pour s'entraider, finalement. Et c'est là que leur relation change dramatiquement. Et les échecs, c'est certes un moyen de subsistance, mais c'est aussi, je pense, symboliquement, voir ta fille et ta fille adoptive réussir dans un monde d'hommes là où la plupart des femmes le font pas. Et donc, en fait, je pense qu'il y a un symbole qui est vachement beau. Et c'est très appuyé d'ailleurs, parce que on voit bien que la plupart des femmes autour de Bess sont pas du tout dans cette situation de pouvoir progressiste, en fait. Elles voient des anciennes collègues de lycée qui sont soit déjà avec des enfants, mais et qui sont dans tous les cas alcooliques. On voit quand elle achète de l'alcool qu'elle trouve d'autres femmes qui achètent de l'alcool. Et donc là aussi, il y a une critique un peu de la société et des chances qui sont laissées aux femmes en général dans notre société et la société américaine des années 50. Alors, je pense que vraiment, en fait, tout ça pour dire, la relation, elle démarre vraiment quand elle peut voir que sa fille a elle aussi un don, ce qui fait qu'elles se ressemblent, elles ont des points communs, mais qu'elle est capable de passer outre, de s'exposer, de se rendre vulnérable, de prendre des risques, d'aller jouer à l'extérieur, ce qu'elle ne sait pas faire. Et donc, il y a une forme d'encouragement, je trouve, et pas du tout d'exploitation, quoi.
Ouais, je suis très, très d'accord avec ton dernier point. Et je trouve qu'en plus, il se dirige là-dessus sur une deuxième espèce de relation de mentor, pas vraiment centrée sur les échecs, mais un peu sur le reste, dans le sens où c'est un peu la mère qui aurait voulu peut-être avoir un parcours similaire avec le piano, qui se retrouve à pouvoir voir quelqu'un d'autre vivre presque, entre guillemets, son rêve avec sa fille qui est adoptive, qui arrive à être très, très douée sur ce qu'elle fait et à aller loin grâce à ça. Et alors, même si c'est pas en mode « je t'apprends à jouer aux échecs », c'est plus en mode... elle lui apprend un peu la vie sur certains trucs, elle l'aide à faire ce qu'elle veut. Il y a aussi peut-être un peu de mentorat aussi là-dessus. Mais un autre truc,
yes.
Je suis pas d'accord juste avec un truc que tu as dit, c'était dans l'idée où on a un personnage très différent d'habitude avec la femme forte, parce que pour moi, c'est un des personnages clichés de beaucoup de séries qui sortent régulièrement maintenant. Mais là, par contre, c'est l'exemple type de la femme forte très, très bien exécutée et que j'aimerais voir dans beaucoup de séries parce que le personnage est ultra intéressant.
cool. Mais parfait sur le côté personnage, je pense qu'on a, on a un peu réussi à répondre à la question autour de la prédominance de Bess et de ce qu'ont apporté finalement les personnages secondaires. Donc c'est cool, moi ça m'éclaire vachement parce que je n'avais pas forcément cette lecture. Quelque chose qui me questionne et un sujet peut-être à débat également, c'est, on l'a, alors Olivier, tu l'as, c'était super cool la manière dont tu l'as amené sur les échecs comme personnages, mais finalement, les échecs, Romain, t'en as un petit peu parlé tout à l'heure, t'as dit bah, les échecs c'est chiant à mourir. Moi je suis pas tout à fait d'accord parce que moi c'est un truc qui m'a toujours un peu incarné, mais la première question que je me suis posée quand j'ai regardé cette série, avant qu'on en parle beaucoup, que ça explose, je me suis dit, mais en fait, est-ce que ça va plaire ? Donc, j'avais pas mal parlé à mon entourage, mais je m'étais dit, est-ce que c'est un truc de Happy Few ? Parce que quand tu as déjà joué aux échecs, tu peux ressentir des choses, tu peux avoir ce côté, tu peux comprendre l'intensité, j'entends, ou pas du tout. Et du coup, c'est vraiment une question sur laquelle j'aimerais avoir votre avis, parce que j'ai du mal à dissocier ma propre expérience de cette série. Vas-y, Romain.
Oui, donc moi, du coup, pour mon avis, moi, j'ai joué aux échecs, enfin, petit, j'ai essayé de déplacer les pièces, et ça s'arrête là. Je ne me suis jamais pris plus que ça. Mais oui, c'est, quand je dis ennui, enfin, c'est chiant à regarder. Enfin, moi, j'y connais pas grand-chose, voilà, je vois ce qui se passe, mais je comprends rien. Enfin, je veux dire, j'irai pas à un tournoi de moi-même, je comprends pas, enfin, je m'endors, c'est littéralement. Et, mais là où je pense que la série a réussi, c'est justement, c'est qu'en fait, on connaît pas les, enfin, si tu connais pas les règles des échecs au premier épisode, tu les connais toujours pas à la fin. En fait, ils ont réussi à montrer des matchs sans qu'on n'y connaisse rien. Moi, j'ai du coup l'exemple avec Althea, donc ma copine, qui n'y connaît rien aux échecs et qui a adoré la série. Parce qu'ils arrivent à mettre de l'enjeu dans les matchs. Et sans connaître les règles, n'importe quel néophyte va aimer la série. Je pense que ça me paraît logique, en fait.
Vas-y, Olivier.
Ah, Olivier, vas-y, vas-y.
Je trouve qu'il y a un truc qui est intéressant. C'est ce que tu viens de dire, c'est que ça parle des échecs. Il y a des gens d'ailleurs qui sont, quand tu regardes un peu les commentaires autour de la série, t'as des gens qui disent franchement, ça m'a saoulé, j'ai pas accroché. Mais la majeure partie des gens a accroché parce que, comme tu le dis, tu peux ne pas connaître les règles, c'est pas gênant pour la progression de l'histoire, dans la manière dont sont traités les matchs, etc. Et contre-intuitivement, il y avait une attention sur le détail dans la manière dont ça a été fait, qui est quand même assez impressionnant. C'est-à-dire que toutes les parties ont été designées, je crois, par Kasparov, donc champion du monde russe, très connu. Mais aussi, ça allait jusqu'au point où... Donc en fait, c'était comme apprendre une chorégraphie, puisque la plupart des acteurs n'étaient pas des joueurs d'échecs, hein, évidemment. Donc globalement, il leur demandait de jouer des vraies parties, les vrais coups, et même quand la caméra ne s'attardait pas sur le plateau. C'est-à-dire que même quand ils étaient dans les scènes de dialogue, ils étaient en train de jouer les vrais coups qui étaient prévus pour que... Enfin, le jeu qui avait lieu était toujours le bon. Donc ils ont été ultra loin dans les détails, tout en ayant cette facilité, enfin, cette capacité à pas nécessiter une connaissance forte des échecs. Donc je trouve que c'est quand même assez rigolo de voir le grand écart, quoi.
Fabien.
Pour m'en dire là-dessus, en fait, moi, je trouve que ce qui marche extrêmement bien au niveau de la mise en scène, au niveau justement de l'attention qu'on va avoir de l'amour, en fait, qu'on va développer pour le jeu, même ce que disait Romain, sans connaître les règles, du début à la fin, on peut ne pas savoir jouer aux échecs, enfin, on ne saura pas mieux jouer aux échecs en regardant Queen's Gambit si on est néophyte à la base. Mais ce qui est extrêmement bien fait, c'est qu'ils ont traité les parties d'échecs comme d'autres séries peuvent traiter le sport. Tu ne connais pas les règles, tu sais pas comment ça se joue, mais tu sais que c'est intense, tu sais que t'es pour quelqu'un qui doit gagner et tu comprends à peu près ce qui doit se passer à la toute fin. À la fin des échecs, faut que le roi tombe. À la fin d'un sport, faut que t'aies marqué le plus de points, faut que tu marques un but, etc. Et c'est vraiment traité comme ça, et notamment avec les parties de speed chess, donc ils sont normalement appelés le blitz pour ceux qui jouent aux échecs. Mais ben pour ces parties-là, justement, tu ressens une intensité extrêmement forte, alors même que les mecs ils déplacent des pièces 3 pièces par seconde, tu comprends que dalle à ce qui se passe, mais tu sens que c'est beau, tu sens que c'est intéressant, tu sens que c'est fort. Et y a un truc qui se passe, quoi, une émulation qui se passe.
Mmh. C'est très dur, le beat, Pierre.
Ah, je vais aller un peu à contre-courant. Mais alors, je trouve que c'est un sujet super, les échecs. Mais je pense qu'avec la série, comment elle a été structurée et le fait que pour moi, ce soit une réussite sur beaucoup d'autres points, je pense que ça aurait pu marcher, même si ça parlait d'autre chose que les échecs. Mais vraiment, je me dis qu'il y a beaucoup de sports, de disciplines. Qui ont des degrés de maîtrise très importants aussi. Et pour moi, vraiment, ce qui a fait la force de cette série, au-delà de son sujet, c'est la façon dont il traitait, un peu comme vous disiez, où on n'a pas besoin de connaître. Mais je reste convaincu que ce n'était pas nécessairement les échecs pour rendre la série intéressante. Et pour moi, c'est plus l'histoire des personnages et tout ce qu'il y a autour qui l'a rendue et la raison pour laquelle des gens ont réussi à apprécier sans connaître les échecs. Pour moi, c'est ça.
Alors, moi, je me demande... Je ne suis pas sûr, en fait. Alors, je pense que je vois ce que tu veux dire, dans le sens où, comme les échecs sont à la fois un personnage important, mais un peu secondaire, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de connaître les règles, etc. Mais je ne sais pas, par exemple, si ça aurait pu être remplacé par un sport. Je pense que le côté très intellectuel, et ça a été... les échecs, il y a un côté, c'était le signe de l'intelligence. Pendant longtemps, on disait c'est le jeu que, tu vois, par exemple, les machines pourront jamais battre les humains aux échecs, etc., etc. Donc, et même dans, je reviens un peu sur ce cliché dont j'ai déjà parlé sur le mythe du génie, le fait que ce soit un génie, mais dans le sens intellectuel, je me demande dans quelle mesure ça joue pas une place importante. Et une des questions que je me suis posée d'ailleurs, c'était, parce que, est-ce que c'est une série qui aurait pu marcher si elle avait été réalisée il y a 20 ans? Ou 30 ans, quand en gros on n'était pas rentré dans l'ère des nerds, où les nerds c'était pas cool. Parce qu'en fait, quand on regarde là, ce qu'on voit, c'est qu'on célèbre quand même une nerd vraiment absolue d'un sujet. Et ça, maintenant on commence à être habitué parce que ça a été traité dans plein de d'éléments de la culture, mais c'est relativement récent quoi dans l'histoire culturelle. Et je me demande du coup si vraiment on aurait pu faire cette série là sur un sujet comme ça il y a 30 ans, tu vois.
Je pense que t'as raison.
Okay. Vas-y, Romain.
Non, moi, je ne suis pas d'accord avec Pierre. Je ne vois pas quel autre sport, surtout qu'on est dans un contexte qui est la Seconde Guerre mondiale. On est à la guerre froide, donc en pleine guerre froide, et c'est quelque chose qui, pour le coup, s'est vraiment passé à l'époque. C'est-à-dire que les échecs étaient une part importante de cette guerre froide. Ce combat USA-USSR, ça a vraiment existé. D'ailleurs, Bess est tiré d'un personnage qui a vraiment existé, qui est une personne qui s'appelle Bobby Fischer, hein. Donc qui est vraiment c'est un mélange de Bess et de Benny Watt, mais vraiment une personne qui a vraiment roulé sur l'école russe des échecs à l'époque, donc pendant la pleine guerre froide, et du coup je vois pas quel autre sport, enfin je veux dire le badminton ça aurait rendu chelou. Le badminton, il faut une certaine, mais
je suis assez d'accord avec la prédominance des échecs qui est une discipline à part entière, et du coup pour moi ça en fait partie, mais plus par rapport à ma connaissance et mon amour des échecs. Mais sur le combat USA-USSR de l'époque, pour moi c'était aussi retranscrit dans d'autres disciplines, notamment les Jeux Olympiques et tout ce qui est sport, tu sais, natation, etc., où il y avait un vrai choc aussi sportif, où les deux nations se livraient une guerre froide, on l'a dit, à travers de jeux politiques, militaires, etc. Espionnage d'ailleurs, qui est un tout petit peu traité dans la série, parce que peut-être que Cléo est un agent du KGB, ça j'ai pas la réponse, mais je veux dire, c'est une discipline qui pour moi illustre cet affrontement, mais finalement, il a eu lieu dans d'autres circonstances, il a eu lieu dans d'autres sports également. Donc, est-ce que les échecs, sans les échecs, ça n'aurait pas été la même série, c'est certain. Je pense que ça revêt un caractère un peu mystique, un peu mystérieux, un peu technologique limite, comme Olivier l'a dit, parce qu'on s'est toujours dit qu'une IA ne battra jamais, et puis avec Big Blue, avec toute la course IBM, Kasparov, hein, c'est des noms qu'on connaît, c'est incroyable. Quoi, comme et puis, au-delà de ça, quand tu as fait des échecs, quand tu as suivi des échecs online, nous, à l'époque, sur chess.net, modem 56K, on regardait des matchs de grands maîtres russes affronter les Américains. Putain, c'était plus la guerre froide, parce que je suis pas si vieux, mais c'était génial, quoi. On ressentait des choses, tu vois. Tu ressentais pas les choses comme la Coupe du Monde ou Roland Garros, match Sampras Agassi de l'époque. Mais il y avait un truc. Donc voilà, je pense que les échecs, c'est quand même assez intéressant. Enfin, heureusement que
mais
c'est
du
là,
coup, pour revenir au point qu'on abordait sur le fait que j'ai réussi à rendre une tension, etc. Est-ce que quand tu suivais ces matchs-là, tu avais cette même tension? Ou alors, est-ce que c'est quand même le succès de la mise en scène? Parce que moi, ce que j'ai trouvé assez dingue, c'est que c'est l'utilisation de deux choses, c'est les visages. Parce que donc, il y a les pièces, et comme tu disais, il y a un peu le symbole de le roi qui tombe, t'as compris, quoi. C'est assez clair pour tout le monde. Mais tu comprends aussi souvent qui a gagné. Sur les visages des opposants, c'est-à-dire les adversaires de Bess, tu vois toujours un truc qui va se passer un petit peu avant. Donc je trouve qu'il faut saluer déjà le jeu des acteurs, qui est franchement top, parce que sur les visages se jouent des trucs. Donc les plans sont quand même vachement bien calibrés. Il y en a beaucoup, effectivement, d'ailleurs, sur le visage de Bess aussi. On voit ses doutes, on voit pas mal de choses transparaître sur son visage. Et je trouve que le sound design est vraiment top aussi, parce que avec l'utilisation des horloges, etc., ça vient presque battre la mesure. Et vous parliez du blitz tout à l'heure, où justement là on entend le bruit des pièces se déplacer. Enfin, il y a un truc, il y a une tension vraiment sonore qui est géniale, quoi.
Clairement, moi qui me fait penser un petit peu à Tchernobyl avec le compteur Gégère, où t'entends un petit peu.
Exactement.
Ça fait vraiment le truc. Alors, pour répondre à ta question, non, la tension n'était pas aussi palpable sur, à part les bruits du modem 56K qui se connectaient. Mais non, tu voyais, à l'époque, il n'y avait pas de vidéo, donc tu ne pouvais pas voir les visages des Kasparov et compagnie. Mais il y avait un truc. Et par contre, dans ce que tu dis, pour moi, à contrario des autres sports, pour juste revenir sur ce point, c'est tu rends l'intellectuel palpable en termes de tension. Et ça, c'est un gros point. C'est-à-dire que quand tu regardes des séries sportives, parce qu'on a regardé plein, Romain, sur tout ce qui est, tu sais, sport foot américain, etc. Il y en a plein, tu sais, les Friday Night Lights, etc., tous ces trucs-là où le sport, limite, est plus expressif, tu vois le contact des trucs, il y a plein de choses. Là, c'est du pur intellect, quoi. C'est deux cerveaux qui se combattent, quoi. Et c'est vrai que, comme tu le dis, Olive, sur les visages, bon... Besque et Anna Taylor-Joy, incroyable. Alors là, je vais modérer mes propos parce que sinon je vais être dithyrambique. Mais on sent ce truc avec les close-ups sur son visage, sur ses yeux, sur sa bouche. C'est incroyable qu'elle réussir à retranscrire ses doutes, ce côté gagnant. Enfin, c'est assez merveilleux. Et du coup, ça joue vachement. Et le son également incroyable en termes de musique que d'ambiance. Et voilà. Donc Pierre, vas-y, complète.
Oui, je suis assez d'accord, même si effectivement c'est peut-être le sujet le mieux choisi dans l'air, et j'y ai pensé après l'avoir dit, mais c'est vrai que le côté qu'a soulevé Maj, URSS USA est important, même si aussi, comme tu l'as dit, il y a d'autres disciplines où ça pourrait être appliqué. Et je voulais juste aussi revenir sur un truc qu'a dit Olivier et qui m'a choqué et que je voulais parler par rapport aux personnages et aux expressions. non, mais pas choqué dans le mauvais sens, pardon. C'est pas du tout comme ça que je veux le faire.
Ici.
Mais ce Fambi aussi disait qu'il trouvait Beth très inémotive, si le mot existe, mais manque d'émotion. Et je trouve que justement, le seul moment où on la retrouve de façon très émotive et finalement presque en perte de contrôle parfois, c'est pendant les échecs, notamment les parties qui se déroulent mal. Tu peux voir tout le panorama des émotions humaines sur sa partie, où en mode, elle s'affole, elle comprend pas, elle voit qu'elle a gagné, et surtout, la posture la plus emblématique qui est le bras croisé, tête posée sur le menton posé sur les mains, et où, avec un regard perçant, et je trouvais que c'était rigolo.
Vas-y, Romain.
Oui, je suis assez d'accord avec Pierre. Et en plus, on a vraiment, pour moi, le match de l'épisode 6, celle où elle sort, elle est à Paris, du coup, elle sort de la baignoire là. Où elle, ce match est totalement fou. Le montage de ce match est exceptionnel. Est vraiment exceptionnel. C'est. Il y a un stress, il y a une tension, tout est palpable. J'ai vraiment trouvé ce moment exceptionnel. Et là, voilà, on la voit en déperdition, on sent que ça va pas, quoi. Et j'ai vraiment trouvé ça.
Alors que paradoxalement, c'est là où elle est le plus humaine. Peut-être qu'elle sort un peu de sa coquille dans la nuit d'avant, dans la découverte de d'autres choses que les échecs. Fabien, vas-y.
Et si je peux, excuse-moi Olivier, si je peux juste rebondir là-dessus, ce qui est assez incroyable, c'est justement, il y a un parallèle énorme qui est fait avec le premier épisode, je crois, où son mentor lui dit, quand tu touches une pièce, tu dois la jouer. C'est comme ça que ça se passe. Et tu la vois hésiter à prendre sa tour, et elle a bougé, et tu sens cette tension, parce que tu as le rappel justement de l'épisode 1, et tu te dis, tu ne connais rien aux échecs, tu ne sais pas ce qui va se passer, ça se trouve, elle va faire un move de génie, ça se trouve, elle va trop la game, et tu sais avec le montage qu'elle va trop la game si elle bouge cette putain de tour. Elle hésite, elle le fait, et au moment où elle touche la tour, tu sais qu'elle a perdu. Et ça, c'est énorme, même si jamais tu connais pas les échecs.
Petite anecdote personnelle, mon premier tournoi, j'ai touché une pièce que je n'ai pas jouée, j'ai été éliminé. Voilà. Il y a d'autres anecdotes sur mes échecs aux échecs, et celle-là, c'était assez fou parce que j'avais joué que sur Internet. C'était comme ton premier tournoi de poker en vrai, et la première fois que tu joues aux échecs en vrai, tu fais des erreurs, et j'ai touché une pièce, et moi, j'avais pas eu un petit Scheibel dans ma tête qui m'a dit, si tu joues la pièce, si tu touches la pièce, tu la joues. Voilà, donc j'ai fait un
échec. Ce qui a marqué d'ailleurs le début et la fin de ta carrière.
Non, il y a eu d'autres trucs. Comme Bess, je suis persévérant, je ne m'arrête pas au premier échec. Il m'en faut environ une dizaine et puis après j'arrête. Olivier, tu voulais compléter ce que disait Fabi?
Ouais, mais ça vient de m'échapper. Je voulais réagir à ce que tu disais, mais je crois que ça vient de m'échapper.
Ok. Mais vas-y Pierre.
Juste, je suis assez d'accord avec moi. C'était avec Romain, pardon. C'est vrai que c'était un épisode qui était particulièrement marquant et que ce match d'échecs était exceptionnel. Et moi, un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est que vu que c'était le deuxième match, c'était un des moments où tu pourrais penser que ça allait être justement le schématique de la progression et que ça y est, elle allait le battre. Mais si bon, c'est pas la fin de la série, donc tu te doutes que non. Et justement, ce final très humain avec la larme qui coule et la réaction de Borgov, qui est aussi très humaine, qui est dans l'incompréhension et qui est en mode. Il a gagné, mais t'as l'impression que dans sa tête à lui, il a pas forcément gagné. Je sais pas comment dire, mais sa réaction pour moi me faisait pas penser à un mec qui était content d'avoir battu quelqu'un. Il y avait une autre sensation pour moi. Je sais pas trop comment mettre des mots là-dessus.
Elle s'entendait peut-être à mieux, en fait, au final, parce qu'elle était connue, tu vois, elle était attendue quelque part. C'était la première fois où elle était si attendue, tu vois, ce génie. Et peut-être que le fait de l'avoir battue si simplement, le combat n'a pas été à la mesure de ce qu'il attendait. Et du coup, il y a une forme de déception dans le combat. Olivier, vas-y.
Moi, je pense que mon analyse de sa réaction, c'était quelque chose comme... il s'attendait à une bataille à la régulière, c'est-à-dire un vrai beau combat. Et il l'espère et il se dit qu'il... Même si c'est la petite jeune qui est en train de monter et que donc il y a tout la prédestine à finir par le battre. Hein. De toute façon, lui étant un grand maître, un champion absolu, il a beaucoup plus, à chaque match, il a beaucoup plus à perdre qu'à gagner maintenant. Là où elle, c'est complètement l'inverse. Elle a tout à gagner, pas grand chose à perdre parce qu'elle est au début de sa carrière. Et donc je pense que lui, il y a un truc un peu choquant pour lui qui est presque. Parce qu'il ne sait pas, lui. Il n'a pas vu la même chose que nous en tant que spectateur. Il ne sait pas que pour la première fois. Elle fait la fête, que pour la première fois, elle se lâche, mais sans l'intention de s'échapper, tu vois, d'être sa propre ennemie. Il sait pas tout ça. Lui, ce qu'il voit, c'est quelqu'un qui est visiblement éméché, quoi, vraiment dans un très sale état, et qui et en fait, elle abandonne même la partie. Donc en fait, il y a un côté de, c'est comme si elle le réduisait, quoi, entre guillemets. Et donc, je pense que lui, il y a un côté, je comprends pas trop ce qui vient de se passer. C'est censé être le match presque du siècle, qui devrait être super important pour sa carrière. Il faut se mettre dans sa psychologie à lui. Je suis le grand maître incontesté. J'ai la personne que j'ai quand même rétamée la dernière fois, qui arrive pour son second match. Elle devrait arriver avec une hargne pas possible. Elle est complètement, arrachée. Je crois que c'est le terme technique en échec. Elle est complètement arrachée et en fait elle finit même pas, quoi. Elle finit même pas la partie. Tu vois, il y a un côté, je pense que sa réaction, c'est juste qu'il n'y a pas eu de match, en fait.
Ah, il est
donc
déçu,
je pense qu'il y a une forme de déception, de frustration.
Oui, il y a un côté irrespect, en fait.
C'est vrai
d'irrespect,
c'est
ouais. Il y a ça.
Oui, d'irrespect.
Et la notion de perspective, comme tu dis, est importante, je pense, où lui, ouais, il a eu peur d'elle. On le voit dans la scène de l'ascenseur, d'ailleurs, où il parle de ses matchs, où il parle des trucs. Lui, depuis longtemps, je pense qu'il la prend au sérieux, contrairement aux autres joueurs russes. Et là, y a forcément une part de déception en mode, en plus, la veille, à la conférence de presse, elle arrive en mode, j'ai tout fait pour éviter le jet lag, un des trucs dont il parlait dans l'ascenseur, etc. Et en plus, elle dit un mot en russe, je crois, à la fin, ou je sais plus quoi. Mais vraiment, et il retrouve pas cette baisse-là. À ce moment-là où elle arrive en retard et tout. Et je pense effectivement, il y a une notion de rival déçu. Peut-être, je pense que tu as raison.
Mmh. Bon, moi, je pense tout simplement qu'il dirait une gueule pas possible parce qu'il a vu s'enfiler 6 pichets de flotte sans aller aux toilettes. Et du coup, il en a, mais qui est cette personne?
Est-ce que la véritable histoire, c'est pas sa capacité de se contenir, quoi? C'est peut-être.
Tout simplement.
C'est là les échecs.
C'est la seule femme au monde qui peut retenir sa vessie.
Ah, wow. Et voilà, wow. C'est donc la fin de ce podcast. Merci.
Premier et dernier épisode.
C'est la partie qu'il faudra couper.
Faire des bips, s'il te plaît, pour couper ce
montage.
Il fallait venir un moment. J'étais obligé de rester vrai au personnage.
Aïe.
Je suis désolé.
Le moment gênant.
Ça, c'est naturel.
Les amis, je pense qu'on a traité beaucoup de choses. On a parlé un petit peu de l'univers, des personnages, du jeu d'échecs en lui-même, un peu de l'évolution de base. Juste, moi, il y a un dernier élément que j'aimerais aborder, après on rentrera dans les caractéristiques, parce qu'on aimerait vous donner notre avis mesuré, je dirais. Mais un dernier élément pour moi qui est vraiment assez fou. Alors c'est dommage que vous ne voyez pas les caméras, parce qu'il y a tout le monde s'étire, donc je pense qu'il y a un match qui est en train de se préparer. Mais le dernier épisode. Moi je suis très sensible, aux séries, je pleure. Je regarde souvent des séries tout seul parce que je pleure souvent, donc j'aime bien regarder ça tout seul parce que j'ai la petite larme. Alors j'ai les larmes à l'œil devant Armageddon, mais j'ai aussi les larmes à l'œil devant des séries comme comment ça s'appelle, The Last of Us, c'est autre chose. Dans cette série, la fin m'a vachement ému. J'ai trouvé ça assez incroyable. Le son était ouf, la découverte de l'URSS austère mais assez humaine finalement, parce qu'avec la fin, donc méga spoiler alert quand elle joue avec les petits vieux dans le parc à la fin. En fait, ce dernier épisode est assez formidable. Pour moi, c'est un des finales, je pense, qui restera ultra marquant, comme le finale de Leftover, par exemple, pour ceux qui l'ont vu, ou d'autres, on va pas s'étendre. Et qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de cette apothéose, en fait, ce septième épisode qui n'était pas prévu sur cette longueur, mais qu'est-ce que vous avez ressenti, vous? Vas-y, Pierre.
Et moi, je trouve que bah, déjà, c'est un épisode exceptionnel. Et, je vais te soutenir là-dessus. Moi aussi, j'ai peut-être versé une petite larme, mais bon, ce n'est rien d'officiel, ni rien de prouvé. Mais le final est assez ouf, notamment la réaction de Borgov à la fin du match et la petite relation qui s'est tissée avec le vieux qui manifeste presque une fierté à côté et la parenthèse avec le tout premier épisode où au final elle commence à jouer contre un vieux random et elle finit en jouant contre un vieux random et également l'esquive justement du cliché USA-URSS qu'on aurait pu avoir en mode c'est nous les meilleurs. Ou à l'inverse, quand ça commence à partir dans ça, pareil, il te monte un cliché avec le mec. Ouais, discours à la Maison Blanche, tu vas pouvoir dire à toute la nation que t'as écrasé les Soviets, etc. Et elle, arrêtez la voiture et elle se barre. Et ça, j'ai trouvé ça exceptionnel parce que elle a échappé au cliché juste avant. Et voilà, c'était bien, quoi.
D'accord avec ce cliché, Romain ?
Non, oui, le dernier épisode, très bon. J'ai une petite anecdote que j'ai lue et du coup j'y ai pensé aussi pendant l'épisode, c'est ce coup de téléphone à l'hôtel où je me suis dit mais impossible à l'époque d'avoir un coup de téléphone qui vient des USA sans que ça soit écouté. Et du coup Gasparov en a parlé dans la semaine en disant impossible. Il a dit impossible qu'à l'époque le KGB n'ait pas entendu la conversation. Et il disait un coup de fil qui vient des USA et qui finit à Moscou. Impossible. Et du coup, ça m'a fait rire. Mais ça m'a fait tilt pendant l'épisode. J'ai dit, mais c'est pas possible que ça arrive en vrai.
Ouais, mais attends.
Mais après, ils disaient que bon, ça mettrait tellement de temps avec le process que ça serait sûrement pas arrivé aux joueurs. Mais ça m'a fait rire.
Ou peut-être justement que c'est pris en compte, mais que tu ne sais pas. Peut-être que le KGB a entendu et que c'est la raison pour laquelle Borgov, pendant son match, n'a pas joué les moves qu'ils ont attendus. Ça pourrait. Tu sais pas ce qui se passe derrière la scène.
Ouais, mais avec des si, il y a plein de trucs qui peuvent se passer.
Le KGB.
Ce qui se passe hors plan, c'est une part élément de la.
Ce qui se passe hors plan n'existe pas si on le sait pas.
Non, c'est pas vrai.
C'est le principe du cinéma. Bah si.
C'est une question sur Olivier, t'en as vu peut-être ?
Ouais, je pense que c'est un épisode qui est intéressant. Je sais pas si j'y vois exactement les mêmes qualités, mais par contre, c'est clairement l'épisode de la résolution parce que dans sa progression à elle. Plusieurs choses vraiment importantes arrivent dans cet épisode. Donc, le fait qu'elle va se faire aider via ce coup de fil par les précédents joueurs qu'elle a pu affronter. Ce qui est assez intéressant parce que pendant une bonne partie quand même de la série, c'est les joueurs américains qu'on voit là dans ce coup de fil, c'est aussi ses prétendants, ses amants en fait. Et on sent que pendant très longtemps, ils sont à la fois donc fasciné je pense par la qualité de son jeu et tout, mais aussi beaucoup attiré irrémédiablement parce que c'est une femme qui s'apprête, tu vois par exemple on déjoue par exemple le cliché de la femme nerd très intelligente joueuse d'échecs qui ne prendrait pas du tout soin d'elle, de son apparence. Là on est dans quelqu'un qui déjoue complètement cette idée là. C'est un génie de ce jeu-là, mais avec des costumes incroyables. On voit que les premiers argents qu'elle utilise symboliquement, c'est quand même marrant, c'est pour s'acheter des fringues, quoi. C'est pour s'acheter des robes, etc., etc. Et donc là, on sent que elle passe dans l'amante, la personne que tu regardes beaucoup, non pas que pour le jeu, mais aussi pour plein d'autres choses, à la meilleure joueur, en fait. Et elle-même, dans sa progression, elle continue. Donc, il y a quelque chose qui se passe dans son entourage. Et elle-même, il se passe des trucs puisqu'elle accepte d'être aidée. Elle travaille collaborativement avec les autres gens, même si juste après dans le match, elle va devoir vraiment affronter le nouveau jeu que lui propose Borgov vraiment par elle-même. Mais on sent que quelque chose s'est débloqué dans son parcours, que les mots de sa vraie mère, où elle disait « tu seras toujours seule », etc., etc., « tu peux compter que sur toi », finissent par arrêter de résonner. C'est aussi d'ailleurs le moment où elle décide de dire non à la drogue, où elle arrête de se droguer. Et je pense qu'il y a un vrai parallèle intéressant entre la drogue et les échecs qui, pour moi, tous les deux symbolisent son comportement obsessionnel, obsessif avec des choses. C'est quand elle arrête de se droguer, bah pour la première fois, elle joue une partie sans l'intention de détruire son opposant. Et c'est quand elle joue avec les petits vieux dans le jardin. Elle joue pour la première fois pour le plaisir, juste parce que là, l'amour des échecs peut vraiment se s'exprimer. Là où avant, c'était il faut performer, etc., etc. Encore une fois, comportement très obsessif et c'est plus du tout le cas. Donc là, on voit qu'il y a vraiment un épisode en forme de résolution pour le personnage principal, quoi.
résolution aussi psychologique même dans ce que tu dis. C'est vraiment
c'est surtout de ça dont je parle. Ouais.
Ouais, tout à fait. Ouais. Juste Romain, avant de te donner la parole, l'avis de Fambi peut-être sur ce finale.
Sur le 7e épisode.
Oui.
Bah, que j'ai adoré évidemment. Enfin, c'est compliqué de pas aimer cet épisode. C'est vraiment ouais le moment où elle va commencer à jouer contre le petit vieux. Je trouve qu'il y a c'est à la fois le climax de l'épisode, je trouve, quelque part, même s'il y a eu le match contre le Borgoff. Mais c'est le climax de l'épisode et en même temps sa conclusion. Il y a quelque chose de très fort qui se passe. Et en fait, à chaque fois, parce que ce que j'aime bien dans cette série, c'est qu'il y a un jeu de miroir à chaque fois en fait qui se passe. Elle commence la drogue avec sa pote, dont je n'ai plus le nom, sa pote Black.
Jolène.
Qui est alors finie avec elle, qui lui apprend, entre guillemets, comment mieux se droguer avec les pilules qu'on lui file. Elle va arrêter la drogue grâce à l'intervention de Jolene quand elle vient chez elle. Elle va arrêter d'ailleurs toutes ses dérives dans le global avec l'alcool, etc. Et c'est toujours un jeu de miroir, en fait. Je commence comme ça, je finis un peu pareil, en fait. Et ça va se rejoindre toujours dans la série. Il y a toujours ceux qui... Voilà comment ça a commencé, voilà comment ça se termine. Et c'est toujours assez similaire. Et le côté, voilà, comme vous disiez avec Scheibel à la fin, et le petit vieux du parc, toujours encore ce jeu de miroir final, en fait, qui apporte quelque chose de très puissant, quoi.
Le jeu de la dame, le jeu du miroir, au final. Mm-hmm. Romain, tu voulais rajouter quelque chose?
Oui, je voulais rebondir sur Olivier. J'aime bien rebondir sur lui. Et... non, c'est au côté individualisme, mais en plus elle le dit très bien au premier épisode. Elle dit je ne veux pas être avec les autres, et du coup c'est constant jusqu'au 7e épisode quasiment, où ce gros changement, finalement elle sera mieux avec les autres, et ça change beaucoup. Et pour rebondir à la fin du 7e épisode, du coup, où on voit une énorme transformation, c'est à dire que c'est une reine, elle est habillée tout en blanc, elle était une reine, c'est voilà, elle a changé. Et voilà.
Génial, ce côté reine. C'est vrai que les costumes, on les a pas trop abordés, mais c'est vrai que là, en l'occurrence, c'est clairement le climax, comme dirait Fumby, sur ça. Ce côté. Ouais, c'est incroyable. Elle l'incarne également par les vêtements. Olivier, t'en as un petit peu parlé tout à l'heure. C'est ces vêtements qui prennent une place incroyable.
Elle passe une étape, quoi.
Ouais. Olivier, tu voulais rajouter quelque chose?
Alors, il y a deux trucs. C'est vrai, si on parle un petit peu de la cinématographie, des costumes et même du maquillage, il y a pas mal de trucs assez intéressants d'ailleurs à relever. Je pense que les vêtements, ça suit complètement sa progression, le look d'ailleurs, même la coupe de cheveux. Il y a plein de moments où c'est en parallèle avec des icônes de la mode de l'époque, notamment avec. Il y a un petit moment où elle ressemble vachement dans le look à Jackie Kennedy, juste avant elle ressemble à la compagne de Andy Warhol, etc. Et en fait, ça vient symboliser un certain nombre de passages dans sa progression à elle. Et c'est assez rigolo d'ailleurs, parce que la costumière du jeu de dames, Gabrielle Bender, elle a souvent utilisé des carreaux dans plein des costumes. Donc si vous regardez de nouveau les scènes, vous verrez que la plupart des costumes, il y a toujours un subtil rappel de carreaux pour rappeler évidemment l'échiquier. Et sur le make-up, là on est en train de parler finalement de la scène de fin. En fait, dans le maquillage qui va être utilisé sur elle, il y a vraiment toute sa maturité et son évolution psychologique qui est marquée à travers le maquillage. Et en fait, ça je l'ai lu, je l'aurais pas remarqué par moi-même, mais par exemple la manière dont le rouge à lèvres était appliqué quand elle est habillée en blanc, donc où elle ressemble à une reine, comme dirait Romain, le maquillage qui est appliqué, le rouge à lèvres, c'est exactement de la même façon que la mère adoptive. Donc cette scène de fin, quand elle est en train de jouer contre le petit vieux aux échecs qui nous rappelle le concierge du début, qui est un petit peu sa figure paternelle finalement dans son évolution, et ben elle porte le rouge à lèvres de sa mère adoptive, donc comme si elle avait vraiment accepté vraiment d'être sa fille, et qu'il y a une... Donc les résolutions sont vraiment complètes, c'est pour ça que je parlais dans l'épisode de la résolution, parce qu'à tous les niveaux, c'est une résolution, quoi. Et sans parler juste de son parcours en championnat, quoi.
Encore un miroir, hein, Benjamin, sur ce côté-là, vas-y.
Bah, juste, alors c'est pas pour rebondir sur le miroir, mais c'est plus sur le côté dame, en fait. Elle est devenue la reine. Je trouve que c'est quelque chose qui se voit même à l'épisode d'avant. En fait, pour moi, elle a toujours été la reine dans cette série. C'est la reine, en fait. Et c'est la pièce la plus forte de l'échiquier. C'est la personne la plus puissante aux échecs qu'on verra de la série. Elle peut tout faire, tu vois. Elle est très forte. Mais ce n'est qu'une reine. Et je trouve que ce côté reine, on le ressent très très fort à l'épisode d'avant, où justement, en fait, on voit qu'elle a besoin également des autres pièces pour gagner, des autres pièces symbolisées par ses amis qu'elle rencontrait tout au long de son aventure qui sont...
Est-ce que c'est pas à la base un pion qui devient reine, parce qu'un pion arrivé à la dernière ligne de l'échiquier peut devenir reine.
Qui atteint la rédemption et se transforme en reine.
Mais très bien, je pense qu'on a fait le tour sur ce sujet-là. Je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Pour moi, voilà, mais jeu de miroir excellent, Fumbi. Je trouve que ça va devenir la référence. Pour continuer sur l'organisation un peu de ce podcast, je voulais. Moi, quelque chose de très frustrant que j'ai quand je dois regarder une série, c'est la noter. Alors, on a donné beaucoup de spoilers, donc je ne sais pas si finalement une review compréhensive pour se dire est-ce que je dois regarder cette série ou pas est vraiment intéressante. Mais pour moi, j'aimerais juste qu'on s'attarde un tout petit moment, très rapidement, en mode un petit peu blitz, limite, tu vois, pour se donner une petite notation. Alors, il y a beaucoup de critères, on ne l'a pas forcément préparé avant, mais peut-être aller directement sur une note, tout simplement. On verra après, dans les prochains épisodes, pour des notes un petit peu plus précise. Mais pour vous, si vous deviez noter de 0 à 5, très simplement, combien vous donneriez ? Juste en blitz, Romain ?
4.
Pierre ?
5.
Benjamin ?
5.
Olivier ?
5 aussi.
Ouais, 5 aussi pour moi. Donc, je pense que c'est un carton plein. C'est un carton plein. Il n'y a que Romain qui a des petits doutes. Ça, c'est son côté un petit peu boute-en-train. Merci, je pense qu'on a creusé pas mal de sujets. Juste un élément, parce que j'ai pas donné d'anecdote, j'en ai beaucoup parlé, je voulais juste conclure. Après, nous allons ouvrir sur une conclusion différente et arrêter de parler du jeu de dames, du jeu du miroir, comme dirait Benjamin. Cette série m'a particulièrement touché parce qu'en fait, en voyant cette petite fille jouer aux échecs et anéantir littéralement des gens plus vieux, plus matures, plus expérimentés, ça m'a rappelé une expérience douloureuse qui a été la mienne où j'ai perdu contre une petite fille de 12 ans dans un tournoi d'échecs qui m'a littéralement rétamé et elle avait le même regard que Bess Harmon. Quand elle me regardait, je tremblais en moi, mon cœur, mon âme, mon courage était brisé. Donc, quelque part, c'est une histoire vraie dans tout ça. C'est ce qui peut-être m'a touché d'autant plus, c'est que cet anéantissement, je l'ai vécu et ça arrive et ça fait mal. Donc voilà, peut-être ce qui a rendu la série encore plus qu'un 5, hein, 5,1, parce que j'ai beaucoup souffert en la regardant. Ça m'a rappelé les heures les plus sombres de l'histoire. Avant de finir ce premier podcast, je voulais juste ouvrir un petit peu la discussion. Un élément un peu méta de cette série, c'est le phénomène un petit peu des séries one-shot. Je l'ai mentionné rapidement sur Tchernobyl, qui a été aussi une série très courte, très intense, très travaillée au final à la manière d'une évolution d'un film, limite. D'ailleurs, à la base, ça n'aurait pas dû être une série, ça aurait dû être un film. Et ils ont réussi à rendre finalement la série attractive en one-shot. Est-ce que pour vous, j'aimerais juste votre avis avant la conclusion, sur ces séries one-shot, sur les mini-séries qui finalement sont dans l'obligation de les rendre un peu plus rapides dans le développement, qui laissent moins traîner certains sujets, certains personnages, qui sont d'une exécution assez fulgurante. Est-ce que pour vous, c'est l'avenir de la série ? Parce qu'on est tous un peu fed up, on a tous un petit peu marre des séries qui traînent en longueur. Lost, si tu m'entends, c'est pour toi. Est-ce que pour vous... Walking Dead, coucou. Est-ce que pour vous, ça représente ça, Fumbi ?
Je pense que la série One Shot, c'est pas l'avenir de la série, mais par contre, pour moi, c'est l'avenir du film. C'est, on raconte mieux. Ni pour moi, The Queen's Gambit aurait pu être un film. Il aurait été moins bien raconté en 1h30, 2h qu'il ne l'a été en 7 fois 40 minutes. Et je pense que c'est plutôt ça. Des séries longues, on en a eu plein. J'en ai regardé plein. Et je pense qu'une série avec un scénario qui justifie 50 épisodes de 40 minutes, il n'y aura aucun problème. Mais un one-shot, je pense, ça a plus vocation à remplacer le format cinématographique.
Excellent. Pierre, ton avis ?
J'aime beaucoup la comparaison qu'il a faite et c'est vrai que c'est ce que tu te dis souvent pendant les films en mode ouais j'aimerais bien en savoir un peu plus et des fois c'est trop court pour retranscrire vraiment ce qui aurait pu être. Par contre pareil, je pense pas que ça remplacera les séries conventionnelles, même si c'est un format qui est très intéressant et qui donne des séries exceptionnelles. Je pense qu'il y a beaucoup trop de gens, et moi parfois compris, qui aiment beaucoup s'attacher à des personnages, à les voir évoluer sur le long terme et à pouvoir presque des fois entre guillemets grandir avec, les voir sur plusieurs années, etc. Donc je pense pas que ça remplacera les séries conventionnelles.
Romain.
Après, en fait, au final, on est en train de comparer des séries de network, donc de chaînes câblées US avec des chaînes de streaming, donc ce qui n'a du coup rien à voir. En fait, Netflix fera toujours des mini-séries et les chaînes du câble continueront à faire parce qu'il faut fidéliser une audience, parce qu'il faut faire de l'argent. Et en fait, on vise pas les mêmes choses et les mêmes personnes. Par exemple, HBO a fait des mini-séries depuis la nuit des temps et ça continuera comme ça, c'est leur business. Enfin, moi, du coup, il n'y a pas de choix. Ça, je pense que ça sera toujours pareil.
C'est une réalité aussi économique et de manière dont c'est fait. Olivier ?
Alors, si on parlait de l'aspect économique, mais si on revient sur l'aspect artistique, je pense en vrai que la question, elle est désolé, Tom, la question, elle est pétée. Il n'y a pas de dichotomie, en fait. C'est pas, en fait, c'est un format de plus. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a encore un petit peu de place pour innover sur des formats. On voit d'ailleurs l'appli Quibi qui n'a pas du tout marché, mais qui cherchait aussi à innover encore sur des formats encore plus courts, à regarder sur mobile et tout. Et c'est cool parce que ça veut dire que t'as plein de finalement de structures de narration nouvelles qui peuvent être assez cool. Le gros avantage, Famille l'a déjà donné, quoi. Le gros avantage, c'est que c'est en termes de narration, t'as un petit peu plus de temps pour raconter des choses, mais t'as souvent aussi moins de personnages, c'est un peu moins choral que les séries qui sont sur plusieurs saisons, puisque tu peux pas avoir 1000 arcs narratifs. C'est pour ça qu'on est vraiment à mi-chemin entre le film et la série. L'autre avantage non négligeable, c'est que souvent t'as des castes qui sont de ouf. Parce que tu peux aller chercher des acteurs qui font plutôt du cinéma habituellement. On l'avait vu sur des saisons comme True Detective et des choses comme ça, où tu peux aller chercher vraiment des castes incroyables, puisque tu leur demandes pas de s'engager pour 10 ans, quoi. Donc, ça donne des super équipes, potentiellement des innovations dans la narration. Et je suis même curieux de voir s'il y aura encore d'autres innovations à aller trouver dans les structures narratives. Donc, clairement, c'est un super format et j'ai hâte de voir les prochaines séries one shot. Pour autant, je pense pas du tout que ça va éliminer les séries ou les films, quoi.
Cool. Ok, excellent. Avant de se quitter, peut-être, donc déjà, merci de nous avoir suivis jusque-là. J'ai pas mesuré, je crois qu'en termes de chrono, on est à 49 minutes, un petit peu plus, je crois, parce qu'on a le démarrage. Enfin, ouais. On doit être à une heure. Avant de se quitter, juste une dernière question blitz. J'ai l'impression d'être à question pour la chambre. Si, ça va être très rapide, Olivier. Olivier me dit non, ta gueule, c'est déjà trop long. Tais-toi, Thomas. Non, juste, série très rapide question.
Ça m'arrange pas.
Est-ce que vous avez depuis joué aux échecs, Romain?
Oui, je m'y suis mis. Non, mais parce que j'aime bien le défi et je suis nul. Voilà.
Pierre Pierre, est-ce que t'as joué, toi? Oui.
À peu près 400 parties.
Putain, c'est énorme.
Waouh.
Benjamin
Non, absolument, mais c'est quand même fou. Quand
je suis rincé aux échecs, du coup, je ne tente même pas ma chance.
Et Olivier, t'as joué, toi?
Dans le cas de Pierre, on peut quand même dire aussi qu'il a joué donc 400 parties, mais qu'il a fini le jeu de dames hier. Donc, vraiment, pour donner une idée du temps qu'il y a passé.
Et
de la durée des parties.
Et la durée est partie. Attendez, mais j'ai pas fini la série. Non, mais en vrai, par contre, je me suis vachement retrouvé sur le personnage parce que je suis très obsessionnel aussi. Hein, donc.
Est-ce que tu prends de la drogue aussi? Parce que Olivier, biche.
Non, moi j'ai pas joué. J'ai joué quand j'étais gamin, un peu comme toi. Mais alors non, j'ai fait la même chose que Romain. Tu vois, j'ai joué un peu, j'ai déplacé des pièces, mais ça n'a pas duré. Et pour le coup, j'ai pas rejoué depuis.
Ok, on est à 50%. Je pense que ça crée un petit phénomène, alors micro phénomène. Je pense que ça se finit dans le temps, mais bon. Ouais. Voilà, c'était juste un petit insight. Écoutez, merci beaucoup déjà de nous avoir écoutés, pour ceux qui ont eu le courage de rester jusqu'au bout. Et puis merci à vous quatre de faire. Olivier nous fait une danse. Je crois qu'on va garder les caméras. On va rendre un podcast vidéo. Wow. Ce serait vachement plus sympa, en vrai. On va passer sur Twitch. Donc merci à tous et puis rendez-vous pour un prochain épisode, un prochain numéro sur une série tout aussi fantastique. Ou pas, parce que nous avons dans le backlog The 100, nous ne l'oublions pas. Une série un petit peu plus rocambolesque. Donc voilà, je vous remercie. Passez une excellente journée, une excellente soirée, une excellente semaine. Des bisous.
Ciao.
Et
très bonne semaine.
À bientôt. Au revoir.
Bisous tout le monde.
Au revoir. Au revoir.
Eps, attendez, ne partez pas. J'ai oublié de vous parler de quelque chose. Il faut absolument que je vous en parle. Dans l'épisode 6, le moment où ils sont en bas, Cléo et Bess, Cléo lui dit que le pastis est une boisson très parisienne. Très parisienne. Waouh. Du coup, je revois ma note. Je mets 3 sur 5. Bisous.